Me que se pastel.
Oh, me qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 30 septembre. Au programme aujourd'hui, la reprise peut-être de l'affaire Darmanin et de ses faveurs sexuelles, comme on dit de manière un petit peu euphémique, alors que c'est un viol a priori dont il est accusé, qui repart donc devant la Cour européenne des droits de l'homme. On va parler du réchauffement de l'Europe, qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète et qui subit aussi de manière générale beaucoup d'outrages du côté environnemental avec des nouveaux rapports qui viennent de sortir. Et on va aussi s'intéresser à l'actualité du Proche-Orient, en tout cas de la guerre Israël-Gaza. Plusieurs infos, en effet, ce télescope sur la situation à Gaza, avec le génocide en cours, une flottille qui est en train d'essayer de rejoindre les côtes, et le président Donald Trump qui présente son plan de paix au monde. On va commencer par la flottille. On a appris donc dans le week-end que selon les médias israéliens, Tsahal allait intercepter la Global Sumud Flotilla, donc la flottille qui est en route en ce moment donné en mer Méditerranée pour tenter de briser le blocus. Une interception qui a donc fuité, ou en tout cas a été annoncée par les médias qui pavanent pas mal pour l'opinion publique, et pour ce soir peut-être, donc dans la nuit de mardi à mercredi, en tout cas c'est ce qui a été annoncé. Ça sera approximativement à 200 km des côtes donc de Gaza. La méthode annoncée en tout cas par Israël, c'est qu'un vaste navire de guerre irait donc à leur rencontre, et à partir de ce navire se déploieraient des soldats, principalement des commandos, pour aller donc arrêter les gens dans les bateaux, les kidnapper de manière plus légale puisqu'ils sont dans les eaux internationales, les équipages donc de cette quarantaine de bateaux qui forment cette flotte humanitaire. Les captifs seraient ensuite enfermés dans une prison militaire pendant 4 à 5 jours puis expulsés dans leurs pays respectifs. Cette durée serait réduite à 24 heures seulement avec s'ils s'engageaient à signer un papier déclarant qu'ils sont entrés illégalement en Israël et que Gaza est israélien. Alors déjà le fait qu'ils rentrent en Israël, a priori s'ils n'ont pas franchi une frontière, c'est compliqué, on est dans les eaux territoriales, et en plus cela reviendrait à dire que la mer face à Gaza est donc israélienne, ce qui est faux et qui est d'ailleurs, rappelons-le, certainement un des enjeux géostratégiques justifiant entre autres ce que subissent les gens de la bande de Gaza, donc l'accès d'Israël à cette partie des eaux. En tout cas, hier après-midi, la flottille se trouvait encore à 300 000 nautiques, ça fait environ 550 km des côtes de Gaza. Et elle continuait son avancée à ce rythme, il devait atteindre l'enclave assiégée d'ici 2 à 3 jours, donc entre jeudi et vendredi. A noter que depuis hier matin, donc lundi matin, la Turquie est entrée dans le bal, j'ai envie de dire. Deux navires de guerre turcs escortent en effet cette flottille. Ce sont des croiseurs lance-missiles de classe Kılıç qui ont communiqué avec les bateaux en précisant qu'ils étaient à leur disposition en cas de besoin et qu'ils les accompagneraient tout au long du trajet. Voilà, la Turquie qui ne fait pas partie, elle, de l'Union européenne et qui a depuis toujours des positions très tranchées envers la politique israélienne, donc plutôt très pro-Palestine. Donc à voir comment se passera éventuellement la rencontre en mer si les navires israéliens viennent eux aussi. Selon les militants, en tout cas de la flottille, la présence turque est rassurante, puisqu'elle représente un geste de protection significatif, non d'ailleurs s'enorgueillit le président Erdogan du côté de son opinion intérieure. et aucune communication officielle n'a été faite par l'armée turque, mais plusieurs drones de combat turcs ont aussi décollé depuis les bases aériennes proches, donc de la mer Méditerranée, à Tekirdağ et à Dalaman, pour survoler cette flottille. Des survols de drones, alors que la flottille avait elle-même été victime d'attaques répétées de drones présumés israéliens dans les dernières semaines. La tension monte donc un peu autour de cette petite flottille de bateaux en mer, alors que les participants se préparaient, je vous le disais, à être interpellés peut-être dans cette nuit. Face à la menace d'attaque des flottilles, donc en violation du droit international, il faudra rappeler, hein, puisqu'on n'est pas dans les eaux israéliennes, des appels au blocage se multiplient un peu partout dans le monde, notamment en Italie, où les syndicats portuaires et la population font pression sur le gouvernement en annonçant justement que si Israël intervenait contre cette flottille, ils allaient bloquer tous les ports disponibles dans le pays, ce qui peut donc causer pas mal de perturbations sur le trafic commercial de la mer Méditerranée. Ces appels de blocage de ports se répandent d'ailleurs un petit peu ailleurs, en Europe, et également à noter du côté universitaire, hein, les facs d'Espagne, de France et d'Italie se préparent elles aussi à des blocages, où ils appellent aussi la population, tout un chacun, à se rassembler devant des mairies aux alentours de 18h ou 18h30, le soir où interviendrait donc possiblement l'armée israélienne. A noter aussi dans les petites infos que samedi dernier, une nouvelle flottille pour Gaza est partie de Sicile, hein, avec des parlementaires français à bord. C'est une flottille de la liberté d'une dizaine de bateaux, chargée là aussi d'aide humanitaire, transportant une soixantaine de personnes de 15 nationalités différentes, qui a quitté donc ce 27 septembre le port de Catane en Sicile, avec là aussi encore pour objectif de briser le blocus israélien illégal de Gaza.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Et tout cela alors que, du côté de l'Empire, eh bien Donald Trump a présenté hier un plan de paix, lui aussi, pour Gaza. Ce plan de paix est censé répondre à la fois aux préoccupations israéliennes et à celles des pays du Moyen-Orient. Un plan qui prévoit un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération des otages israéliens, un retrait de l'armée israélienne, des territoires de Gaza en tout cas, hein, pas forcément des territoires occupés en général, et aussi un afflux d'aide humanitaire. Washington propose également une nouvelle formule de gouvernance pour Gaza qui exclut complètement le Hamas. Ces annonces ont donc déclenché une vague de réactions dans le monde, hein, dans tous les sens d'ailleurs. Le plan du président américain pour mettre un terme est un échec diplomatique retentissant en tout cas pour Israël. C'est ce qu'a déclaré mardi un ministre israélien d'extrême droite, donc une partie de la classe politique qui soutient Netanyahou, elle est contre complètement ce plan. L'autorité palestinienne, elle, a salué les efforts sincères et déterminés de Donald Trump et elle a dit accorder sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix. Le djihad islamique, lui, au contraire, a dénoncé une recette pour la poursuite de l'agression contre le peuple palestinien. Je vous passe les réactions de tous les dirigeants du monde, mais à l'ONU, c'est le responsable humanitaire Tom Fletcher qui a vu dans ce projet de nouvelles possibilités pour livrer de l'aide nécessaire à Gaza, en affirmant que l'organisation était prête et avait hâte de travailler à la mise en œuvre de cette opportunité de paix. Donc une réaction là vraiment ciblée sur l'aide humanitaire à apporter à la population qui subit une famine et un accès à tous les besoins primaires, que ce soit l'eau, la nourriture et les soins médicaux. Tiraillé entre la pression internationale donc, et son gouvernement, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, pourrait peut-être accepter ce plan au contour énigmatique, hein, mais peut-être sans pour autant s'engager à le mettre en œuvre. Ça serait tout à fait dans l'air du temps, en tout cas c'est ce que constatent et commentent divers commentateurs experts de la situation.
Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre mais...
Allez, on continue de décortiquer, on passe à l'Europe, mais du côté environnemental. C'est un rapport qui vient d'être publié hier par l'Agence européenne de l'environnement et qui nous informe que les modes de vie européens risquent de ne pas survivre à la catastrophe écologique. C'est la 7e édition de ce rapport sur l'état de l'environnement en Europe, donc il a été publié hier et on y apprend entre autres que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Cette agence dresse tous les 5 ans un vaste panorama de l'état des écosystèmes et de leur protection donc en Europe à partir de l'analyse des données des 38 pays du continent. Le qualifier d'inquiétant, ce constat serait un euphémisme puisqu'il parle de catastrophe. On y apprend que les écosystèmes dont dépendent l'ensemble de nos existences sont dans un état désastreux. Que ce soit la qualité des sols, de l'eau, la pollution, les risques climatiques et sanitaires, tous les voyants, en gros, sont au rouge. Ce rapport révèle que 80% des habitats protégés, tout d'abord sur le continent européen, donc des zones que normalement, justement, auxquelles on fait très attention, eh bien ces habitats protégés sont à 80% dans un état médiocre ou mauvais. C'est un premier signal pas très bon. Alors, il faut quand même noter que l'étendue de ces zones a progressé au cours de la dernière décennie, puisque en 2022, c'était 26% des terres et 12% des mers européennes qui étaient protégées. Mais, rappelle l'agence, désigner des aires de conservation ne garantit pas que la biodiversité sera efficacement protégée. En France, par exemple, les aires maritimes protégées restent massivement ouvertes à la pêche industrielle et aux techniques de pêche les plus néfastes. C'est toujours cette fameuse double communication. Côté forêt, le tableau n'est pas beaucoup plus reluisant. Ce puits de carbone terrestre de l'Union européenne, donc la forêt, a diminué d'environ 30% par rapport à la dernière décennie. Cet effondrement est expliqué par une combinaison de facteurs, notamment un abattage des arbres plus fréquent et étendu, mais aussi la multiplication des incendies, les épisodes de sécheresse et la présence accrue de ravageurs, par exemple les scolytes. L'agence révèle également que 60 à 70% des sols de l'Europe sont dégradés. Les ressources en eau, elles aussi, sont soumises à une forte pression, puisque seuls 37% des étendues d'eau douce du continent pouvaient se targuer en 2021 d'être en bon état écologique. Le principal responsable de ces pollutions des eaux, c'est l'agriculture intensive, notamment le ruissellement des engrais et des pesticides, qui va dégrader la qualité de l'eau, favoriser aussi la croissance excessive d'algues, avec tous les nitrates présents dans les engrais, et épuiser les niveaux d'oxygène en entraînant donc la perte de la vie aquatique. Responsable de 93% des émissions d'ammoniac, l'agriculture de l'Union européenne est aussi la principale responsable du déclin des pollinisateurs et de la dégradation des sols du territoire, en sapant donc tous les services que les écosystèmes nous rendent. Et il faut noter aussi que cet état dégradé des écosystèmes n'a rien d'anecdotique. Il ne faut pas oublier que quasiment 3/4 des entreprises de biens et de services qui fonctionnent aujourd'hui dans la zone euro dépendent fortement de tous ces écosystèmes. C'est pas juste pour le plaisir des randonneurs, quoi, ou pour les écolos. Si des efforts ont globalement été faits du côté de la réduction de la pollution de l'air, en revanche, les Européens continuent de vivre dans un environnement quand même toxique. Des millions d'années de vie en bonne santé sont ainsi chaque année volées aux habitants du continent, selon ce rapport, qui note que 10% des morts prématurées du continent sont dues à l'exposition à de l'air, de l'eau et des sols pollués, mais aussi au bruit et aux produits chimiquement nocifs. Et on termine avec justement les politiques locales. Côté climat, donc, si l'agence a relevé quelques progrès, par exemple les émissions du secteur industriel de l'Union européenne ont diminué de 35%. Bon, vous vous doutez bien que c'était pas suite à des grandes politiques écologiques, c'est juste que l'industrie est délocalisée de l'autre côté de la planète. Donc entre 2005 et 2023, moins 35% pour les émissions du secteur industriel. La part des renouvelables, des énergies renouvelables, a doublé dans le mix énergétique. Ça fait aujourd'hui 24% de la consommation. Mais malgré tout cela, les combustibles fossiles restent dominants. Ainsi, on était à 70% de la consommation énergétique de l'Union européenne en 2023. Et côté mobilité, eh bien, on n'a quasiment pas évolué. On est toujours à plus de 75% sur de la bonne voiture individuelle. Si on s'intéresse maintenant, pour finir, aux effets du changement climatique qui sont déjà là, eh bien, ils se font de plus en plus violents. L'Europe se réchauffe, je vous le disais, deux fois plus vite que le reste de la planète. Par exemple, entre 1980 et 2023, les événements climatiques extrêmes ont fait plus de 240 000 morts au sein de l'Union européenne. Et à côté de cela, il y sinistre des écosystèmes, des économies, etc. Les retentissements économiques sont d'ailleurs tout aussi sévères. Si on regarde en 2023 les inondations qui ont frappé la Slovénie, par exemple, eh bien, ça fait moins 16% du PIB, du produit intérieur brut du pays. Et tout cela va en s'empirant. En moyenne, les pertes économiques par année liées aux phénomènes météo extrêmes ont été 2,5 fois plus élevées pour la période 2020-2023 que pour la période 2010-2019. Voilà, toutes ces données catastrophiques et alarmistes paraissent alors que l'Union européenne semble justement de plus en plus tentée par ne rien faire niveau écologie. Les membres de l'UE peinent par exemple à se mettre d'accord sur l'objectif de réduction des émissions de CO2 d'ici 2040, qu'ils sont censés présenter à la COP au Brésil. Et il y a quelques jours, c'est la commissaire européenne à l'environnement qui a également reporté la mise en œuvre d'un règlement essentiel sur la déforestation. Voilà, deux, donc le CO2 et les forêts, deux des grands domaines qui mériteraient justement un plan d'action urgent, selon ce rapport, plutôt qu'un coup de frein. Voilà, c'est un article qui a été bien évidemment relaté dans les colonnes du média écologiste Reporter.
Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr!
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra!
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
On pourrait plutôt dire la dengue et le chikungunya aujourd'hui pour réactualiser cette citation d'un extrait de Tintin que vous aurez sûrement reconnu. Alors, bah justement, pendant ce temps-là, le tribunal judiciaire de Paris condamnait ce 23 septembre dernier une jeune activiste écologiste, Rachel, âgée de 23 ans. Elle a eu 6 mois ferme, 6 mois de prison ferme. Qu'est-ce qu'elle a pu faire comme dégâts ou comme crime? Eh bien, elle avait mis de la peinture orange sur l'hôtel de Matignon. La peinture orange lavable, hein, il faut le rappeler. C'était le 8 novembre 2023. Elle faisait partie des militants d'une campagne qui s'appelait Dernière Rénovation, qui réclamait des mesures d'ampleur pour la rénovation énergétique des logements, et donc aussi réduire les coûts énergétiques pour la collectivité et pour les particuliers. Voilà, une grande cause d'ultra-gauchiste, certainement. Selon le communiqué du groupe, donc Dernière Rénovation, Rachel a été reconnue coupable de dégradation, mais aussi de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, ce malgré les très maigres preuves en ce sens. Toujours d'après l'organisation, la décision donc des 6 mois ferme est la sanction la plus lourde jamais prononcée en France contre une activiste, et ce pour une action de désobéissance civile non violente. Pour rappel, en 2004, dans l'affaire des fauchages de champs d'OGM, le fameux José Bové, lui, avait été condamné à 4 mois de prison ferme. La condamnation de Rachel s'inscrit dans un contexte donc de répression accrue des militants écologistes. D'ailleurs, il faut noter que les campagnes Dernière Rénovation ou Riposte Alimentaire sont terminées depuis plus de 2 ans, mais qu'il y a encore plein de personnes qui attendent d'être jugées. 48 audiences ont déjà eu lieu au tribunal et 47 sont encore à venir concernant une centaine de militants de ces collectifs. Et donc, pour eux, l'affaire continue, malheureusement. Les marches pour le climat, en revanche, elles continuent de battre le pavé. Et avec justement de nouvelles aussi perspectives et de nouvelles dynamiques qui viennent influer ce mouvement. Par exemple, à Montpellier, ce dimanche, avait lieu la marche des résistances climat, justice, liberté, qui a lieu dans 70 villes de France. À Montpellier, environ 800 personnes ont manifesté, donc, avec plus de 200 organisations et collectifs qui ont porté cette grande marche, des revendications donc écologistes, mais aussi sociales et anti-impérialistes ou décoloniales, pour utiliser des mots plus actuels. Draw the line, fixer les limites, c'était l'appel qui était lancé donc par une centaine d'associations et d'ONG du monde entier. Et 600 et 800 personnes, je vous le dis, entre 600 et 800 personnes ont répondu ce dimanche à Montpellier à cette marche des résistances. Localement, c'était Alternativa, Action Justice Climat et Greenpeace qui avaient coordonné cet événement. L'appel Draw the Line vient avant tout de peuples autochtones d'Amérique du Sud et du Pacifique, explique une membre d'Alternativa justement qui a organisé cette marche. Le but est de rappeler que nos luttes ici résonnent avec celles menées ailleurs. Une mobilisation donc internationale à quelques semaines de la COP30 qui doit se tenir en novembre au Brésil. Et pour ces militants, c'est un peu la COP de la dernière chance. Puisqu'on va fêter les 10 ans des accords de Paris, on est en 2015, et pourtant on a depuis dépassé la limite du réchauffement de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, alors que justement l'accord de Paris visait à réduire les émissions de CO2 pour tenter de ne pas dépasser ce palier. Une ligne rouge donc qui sera notamment matérialisée pendant cette manifestation par un bandeau de plastique rouge qui allait d'un bout à l'autre du cortège. Et les revendications de cette marche pour le climat sont nombreuses. La sortie des énergies fossiles, bien évidemment, l'interdiction des projets climaticides, une transition vers l'agroécologie, mais aussi la taxation des ultra-riches, le retrait de la loi du plomb, l'interdiction des pesticides. Et je vous le disais, le tout traversé par des problématiques décoloniales. À ce titre, par exemple, le fameux dossier du chlordécone, l'usage de ce pesticide hein, qui a été utilisé jusqu'en 1993 en Martinique et en Guadeloupe dans les plantations de bananes et qui est à l'origine de nombreux cancers et de morts. Eh bien, ce chlordécone est vu par les manifestants comme un crime colonial de l'État français qui nécessite donc réparation. Le capitalisme détruit la planète et le vivant. Il y a un lien entre la dénonciation de l'impérialisme, la volonté de libérer les peuples opprimés et la lutte pour l'environnement, résumé donc par exemple Lisa, qui fait partie de Action Justice Climat. Un constat d'ailleurs partagé par Nassira, qui fait aussi un pont avec l'actualité, puisqu'elle est membre, et faisait partie de cette marche, mais elle est membre du comité BDS Urgence Palestine de Montpellier. Elle explique que le génocide en Palestine n'est pas déconnecté de la question écologique, car c'est aussi un écocide. Par le pillage, l'empoisonnement des nappes phréatiques, la destruction des arbres hein, et des oliviers qui font partie de la culture palestinienne. Il y a une logique similaire entre le fait de détruire un peuple, dit-elle, et de détruire la terre. À noter aussi dans ce cortège montpelliérain un drapeau de la Kanaky qui flottait au drapeau à côté justement du drapeau palestinien avec un membre de l'association de soutien au peuple kanak, Warmadri, une association qui est implantée aussi bien en Kanaky Nouvelle-Calédonie qu'en métropole et qui dit observer les conséquences de la montée des eaux provoquées par le réchauffement planétaire. Côté perspective, donc, suite à cette marche, les organisateurs affirment leur volonté d'ancrer dans le mouvement social en cours contre l'austérité leur mouvement, mais aussi de faire monter la pression en vue de la COP avec d'autres rassemblements à venir. Allez, on termine avec un point justice et plutôt société. Des révélations qui viennent d'être faites dans le média Blast, une enquête, qui révèle et qui s'est intéressée au dossier de l'affaire Darmanin, qui repart un petit coup dans les rouages de la justice, mais cette fois-ci au niveau européen, justement. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a été saisie par la victime présumée de Gérald Darmanin, Sophie Patterson. Celui-ci avait été accusé de viol, mais épargné par la justice française. Et donc le cas de ce ministre de la Justice démissionnaire, Gérald Darmanin, est maintenant étudié par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Elle doit se prononcer d'ici la fin de l'année sur le fond de ce dossier. Et ce dossier, quand même, a été ouvert en 2017 par la plaignante. Gérald Darmanin est ciblé par deux enquêtes préliminaires. Hein, donc l'une ouverte sur la plainte de Madame Patterson et l'autre sur celle d'une habitante de Tourcoing. Vous savez, celle qui a nécessité un logement. Toutes ces deux affaires ont été classées sans suite. Ensuite, il y a eu une information judiciaire. Gérald Darmanin a bénéficié en 2018 d'une ordonnance de non-lieu à informer, d'une ordonnance de non-lieu en 2022, et enfin en 2024 d'une décision de la Cour de cassation. Bref, un joli septennat d'impunité et de complaisance pas mal de la part des magistrats, vous allez le comprendre dans quelques minutes. C'est donc suite à ce climat que Sophie Patterson, notamment quand elle a vu qu'il était nommé ministre de la Justice, elle s'est étouffée, elle a dit, et elle a donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 10 juin 2024, l'an dernier, pour faire condamner, là, cette fois-ci, la France. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas rouvrir le dossier pénal de Gérald Darmanin, hein, c'est pas dans ses compétences, mais en revanche, elle peut condamner la France, à travers sa justice, pour sa gestion toute particulière, dirons-nous, des affaires dans lesquelles le ministre a été pointé. Et ces dossiers, même s'ils sont anecdotiques, c'est quand même sont un très bon révélateur de la manière dont la justice française prend en compte ou traite les agressions sexuelles. Le premier élément qui pourrait faire tiquer les juges européens, tout simplement, il est juridique, hein, c'est même pas Darmanin, c'est la définition du viol en droit français. Voici comment le code pénal le définit, hein, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Tout cela, donc, c'est un viol. C'est l'article 222-23. Cet énoncé évacue donc toute notion de consentement ou de sidération ou d'emprise ou même d'inconscience de la victime. On se rappelle le cas des procès de Mazan. Pour caricaturer donc à peine, d'après les journalistes, sans étranglement aujourd'hui ou prise de judo, clé de bras ou arme pointée sur vous, pas de viol. Pourtant, rappelle-t-il, dans les affaires d'abus et de violences sexuelles, nombre de femmes agressées expliquent justement ne pas avoir su comment réagir et être restées tétanisées par la situation. Justement, un des experts psychiatriques qui a étudié le dossier dans la procédure contre Gérald Darmanin explique que le récit que la plaignante a partagé suggère qu'elle a fait appel à la dissociation corps-psyché. nous relevons les troubles dissociatifs avec choc, sidération et sensation d'être piégé. Soit c'est l'équivalent de la phase de la capture au restaurant, hein, si vous lisez cet article en entier, les faits sont relatés la soirée, où Madame donc Patterson n'est plus en mesure de réagir de manière parfaitement adaptée à une situation où toute autre femme, dans un autre contexte normal, aurait pris la fuite. En gros, il lui a proposé de venir discuter de ses problèmes, elle avait des problèmes à régler, elle était à l'UMP, et il lui a dit « bah viens, on va en discuter », elle a proposé de se voir au petit-déj, il a dit « non, là, je suis trop occupé, viens, on va au restaurant le soir », et après il l'a emmené dans un club échangiste à côté. Un autre psychiatre, le docteur Béatrice Choreau, elle abonde, d'ailleurs, elle explique ce qu'elle raconte sur la rencontre au siège de l'UMP avec Gérald Darmanin. Monsieur Darmanin, à l'appui de sa position d'élu, met en confiance et charme Madame Patterson sur un plan cognitif, une phase d'accroche et de mise en confiance, voire d'emprise cognitive, en lui assurant d'intervenir en sa faveur et de plaider son innocence en haut lieu à l'appui avec un écrit. Elle avait des soucis judiciaires, la dame. Tout ça, visiblement, ce que les experts psychiatriques en pensent, n'a pas passionné les juges d'instruction qui se sont succédés dans ce dossier. Quelques exemples. Le défaut de consentement de la partie civile ne suffit pas à caractériser le viol. Encore faut-il que le mis en cause ait eu conscience de lui imposer par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle. En somme, bon, qui ne dit mot consent, hein, le silence vaudrait pour ça, et il faudrait que ça soit un viol, que l'accusé, en gros, reconnaisse que « ah oui, j'ai bien eu conscience de le faire ». Pas sûr, en revanche, qu'au niveau de l'Europe, les magistrats, justement, de la Cour européenne des droits de l'homme aient la même analyse, puisque dans un arrêt récent du 4 septembre dernier, les juges qui siègent à Strasbourg ont condamné la France précisément pour son ignorance du consentement. La France a manqué à ses obligations qui lui imposaient d'instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis et de les appliquer de façon effective, tacle-t-il, bon, dans un langage juridique, pour préciser donc que le consentement, justement, doit traduire la libre volonté d'avoir une relation sexuelle déterminée au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances. Bref, il y a pas mal de... Là, je vous ai fait un petit résumé. Mais de manière générale, dans cet article donc à retrouver sur le média Blast, blast-info.fr, on lit un traitement très sexiste de l'affaire et qui révèle donc certainement la manière dont l'institution continue de gérer toutes les affaires de violences sexuelles. Par exemple, assez classiquement dans cette affaire, la plaignante a été sommée par la justice plusieurs fois d'expliquer pourquoi elle n'avait pas quitté le restaurant ou la chambre d'hôtel, pourquoi elle n'avait pas formulé son opposition, de répéter que non, elle a dû expliquer qu'elle ne s'était pas faite payer, et tout ça devant répondre encore à des questions sur la manière dont elle était habillée. Mais aucune question ni critique envers M. Darmanin, qui est pourtant le mis en cause dans l'affaire. Ainsi, on peut noter le refus de la juge Huguet d'entendre la première épouse de M. Darmanin, alors que justement celle-ci s'est signalée auprès de la justice, elle a demandé à être convoquée par courrier en découvrant les déclarations et la vie parallèle de celui dont elle partageait justement la vie à l'époque. Elle a voulu aller signaler des choses à la justice, on n'a même pas daigné écouter la femme de Gérald Darmanin. Et il faut encore ajouter, pour terminer, parmi les nombreux éléments qui sont pointés par la requête de la Cour européenne des droits de l'homme, des précautions aussi envers l'accusé, aussi touchantes que choquantes, par exemple dans la manière dont la juge d'instruction pose les questions. À la plaignante, donc à la victime. Elle lui dit « Ne pensez-vous pas que Gérald Darmanin a pu se méprendre sur vos intentions quand il a constaté que vous acceptiez de vous rendre avec lui au restaurant, dans un club échangiste, puis dans une chambre d'hôtel ?» À elle seule, la formulation de la question semble bien donc résumer en tout cas l'intime conviction de la magistrate, alors qu'elle n'est pas censée donner trop son avis, et donc signer la suite attendue, et d'ailleurs ça n'a pas manqué. Monsieur Darmanin a été relaxé. Le mot de la fin avec cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu le 25 avril dernier sur la France. Les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger la dignité de l'intéressé en l'exposant à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice. Voilà qui est bien dit. La suite, donc, je vous encourage quand même à aller lire ça. Et puis, vous en saurez plus sur notre ancien ministre de la Justice. C'est sur blast-info.fr. Et voilà, ça vient tout juste de sortir. Allez, on se quitte là-dessus, les amis. Rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, Par exemple, bon, il y en a plein, Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revues de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués, les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.